Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.com. Programme aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux sorties d'un tout jeune éditeur, Extra Lucid Film, avec Césure, la reine du mal d'Oliver Stone, Death Warmed Up de David Bliss, House on Sorority Road de Mark Rossman et Star Crash de Luigi Godi. Dans la deuxième partie de l'émission, les responsables d'Extra Lucid Film, Karine Bach et Patrice Véry, répondront à nos questions. Pour causer de toutes ces pépites, je suis accompagné de mon fidèle acolyte. Je veux bien sûr parler du loup-garou Picard, Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA et rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe. Salut Thomas.
Salut GG et bien évidemment bonjour à toutes.
L'un après l'autre, vous mourrez. Et à l'aube de ce prochain jour, ce sera la mort vue de près pour l'un de vous.
La fatalité choisit-elle ses victimes? Est-il vrai que le surnaturel nous entraîne? Vous le saurez en venant voir Tango Macabre. Tango Macabre vous figera d'horreur. Tango Macabre, un film où la mort mène le bal.
Je vais vous causer d'un film d'Extra Lucid Film, donc, hein, qui me tient particulièrement à cœur. C'est un film qui montre la famille américaine idéale, selon Oliver Stone. Hein, c'est-à-dire que dedans, bah, y a un peu de surdité, y a du sexe, il y a un nain, il y a un chien pendu, il y a un enfant abandonné, et puis bien pire encore, voilà. Ce film, c'est Césure, la reine du mal. Alors, personne ne sait trop bien, parce qu'on va faire un peu d'histoire quand même avec l'ami Oliver Stone, personne ne sait trop bien ce qui s'est passé dans la tête d'Oliver Stone le jour où il a décidé de s'engager pour le Vietnam. Hein, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'à son retour, à la fin des années 60, il n'est plus le même homme. Ceux qui ont vu Platoon, hein, voilà, savent que l'expérience l'a profondément marqué. Il intègre alors l'université new-yorkaise de cinéma dans laquelle enseigne Martin Scorsese et signe en 1971, le court-métrage autobiographique Last Year in Vietnam. Mais avant de devenir le metteur en scène foutraque que le tout Hollywood s'arrachera durant la décennie 90, le médaillé de guerre Stone doit se lancer dans le métier. Il choisit alors de faire son trou dans le cinéma d'horreur, alors en plein boom. Stone ne faisant jamais rien comme les autres, il signe avec une coproduction USA-Canada, totalement barrée, tournée avec un budget dérisoire et intitulée « Césure, la reine du mal ». Césure, à l'origine, c'est un script d'Edward Mann, spécialiste du fantastique et qui a entre autres signé « L'île de la terreur » de Terence Fisher, film de 1966. Il vient de boucler le scénario du bizarroïde Mutation de Jacques Cardiff, un film de 1974 dont on a parlé dans l'émission déjà, lorsqu'Oliver Stone décide de remanier un autre de ses travaux consacré à un écrivain de SF, victime d'attaques cauchemardesques. Cet auteur, c'est Edmund Blackstone, qui vit en reclus dans une magnifique propriété entourée d'un bois et d'un lac en compagnie de sa femme Nicole et de leur fils Jean-Guy. Ah ouais, ça existe. Hein. En 1974, il y avait des enfants qui s'appelaient Jean-Guy. Hein. C'est comme ça. Tous s'apprêtent à recevoir leurs amis, mais Edmund est hanté dans son sommeil par des visions mettant en scène une prêtresse démoniaque. Prêtresse démoniaque, c'est Martine Beswick hein, quand même. J'aime beaucoup cette prêtresse démoniaque. Et ses deux assistants, à savoir un nain perfide et un géant noir muet. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est terre de contraste, Oliver Stone. Voilà. Le repas qui s'annonçait peu passionnant est rapidement troublé par l'intrusion violente de la reine du mal et ses deux sbires. Ça tombe bien quand le rêve rejoint la réalité. C'est magique. Ce trio maléfique va soumettre les invités à une série d'épreuves. Seul mot d'ordre, à l'aube, il n'en restera plus qu'un. Le long métrage va alors brouiller les pistes sans arrêt en naviguant entre fantasme et réalité. Oliver Stone, déjà plutôt roublard malgré son inexpérience, se garde bien de choisir et joue la carte de l'équivoque. Plutôt que de parler d'ambiguïté, ses détracteurs ont toujours regretté la facilité avec laquelle le metteur en scène new-yorkais a souvent chaussé de gros sabots. Pour Césure, il préfère pervertir un scénario peu folichon de la veine « ouf ». C'était juste un mauvais rêve, les gars. C'est bon, on s'en sort. En y injectant une forte dose de délire. Alors, il paraît aussi que pendant le tournage, il y avait beaucoup de choses qui circulaient. Et beaucoup d'alcool aussi. Maintenant, les langues se délient un peu. Et de psychotropes de l'alcool. Et que donc, ça expliquerait un peu le film.
Normal que se délient maintenant. Avant, elles étaient un petit peu pâteuses.
Eh bien, tout à fait, Thomas. Je vois que tu es spécialiste. Hein. Ta réputation d'alcoolique t'a précédé.
Don't ask us who we are or where we come from. Our only purpose is death. Now, one after the other. The rest of you will die. There will be darkness, damnation, and a meaningless death.
We know your secret. We read your mind.
Vous écoutez Culture Prohibée.
You can never run from it. You can never hide from it. The breath-stopping panic of seizure. Rated PG.
Ce qui débute comme un home invasion classique devient rapidement une sorte d'hallucination terrifiante, un film freudien en diablesse, si j'ose m'exprimer ainsi, servi par une mise en scène azimutée. Au départ, malgré un générique étrange qui voit un dessin de crâne se superposer à un fond mauve, Césure est plutôt bucolique, à l'image des décors paradisiaques de la maison Blackstone et de la bande-son folkeuse de Ligagnon, partition presque cuculapraline, hein, voilà, pour reprendre une expression de mon enfance. Puis Stone se met à varier les focales afin de nimber son spectateur dans une sensation de cauchemar réveillé. Par petites touches, la reine du mal bascule dans l'irréel. Le chien de Jean-Guy, qui s'appelle Aziz, est retrouvé pendu. La nurse est traquée par des inconnus lors d'un élégant travelling latéral et un nain surgit au beau milieu du salon et menace de sa dague des convives effrayés durant une scène ultra découpée qui multiplie les plans. La musique devient alors stridente, saturée de sonorités électroniques, puis Oliver Stone enchaîne avec une poursuite durant laquelle il n'hésite pas à filmer caméra à l'épaule. Et oui, il est dingue cet Oliver Stone. Les morceaux de bravoure vont alors se succéder jusqu'à un final glaçant. Difficile de savoir si Stone est inspiré par Alejandro Jodorowsky, hein, parce que bon... On rappelle quand même que La Montagne Sacrée, c'était l'un des Midnight Movies qui avait le plus cartonné à l'époque. Hein, ou tout simplement par l'abus de psychotropes, ou bien un peu des deux. Mais Oliver Stone démontre déjà un certain talent à instaurer un climat singulier. Ce film insolite voit son étrangeté renforcée par un casting démentiel. D'abord, je vous l'ai déjà dit, La Reine du Mal, c'est la sublime Martine Beswick, qui est aussi sexuellement agressive que ton Dr. Jekyll et Sister Hyde de Roy Ward Baker en 71, et dont la beauté envoûtante et vénéneuse fait merveille. Qui ne rêverait pas de s'adonner au stupre et à la luxure en sa compagnie. Son assistant nain, l'araignée, est campé par le français Hervé Vilches. Et oui, le fameux tatou de la série L'île fantastique. Mais oui, Thomas, cette série que tu regardais toi aussi étant enfant, car je sais que tu as un jour été un enfant. Il y a encore un enfant à l'intérieur de ce corps d'adulte. Et c'est d'ailleurs avec ce rôle hein, qu'il a tenu entre 77 et 83 qu'il accède au rang de freak. Culte du cinéma fantastique et retrouvera un rôle proche de celui-ci dans un autre objet filmique non identifié, Forbidden Zone, tourné en 82 par Richard Elfman, le frère du compositeur Danny. Césure met également en vedette une égérie de l'écurie Corman, celle qui fut la muse du regretté Paul Bartel, le réalisateur d'Eating Raoul en 82, réalisateur auquel là aussi un jour l'émission devrait se consacrer parce qu'immense réalisateur, très peu servi par l'édition DVD. Et cette femme, c'est la sculpturale Marie Von Oroff. Celle-ci laisse admirer sa superbe plastique lorsqu'elle combat en petite tenue Edmund Blackstone sous le regard amusé de la perfide reine du mal. Un Edmund campé par une véritable star outre-Atlantique puisque ce Edmund, c'est Jonathan Freed. Ça vous dit quelque chose, Jonathan Freed ? Eh bien non, faut savoir qu'aux États-Unis, c'est une superstar parce qu'il interprète en fait Barnabas Collins dans la série de Dan Curtis, Dark Shadows, série ultra culte, soap horrifico-comique, ultra culte chez les anglo-saxons, qui s'étendit donc de 67 à 71. Alors ce casting hétéroclite et étonnant, qui ne peut que susciter la curiosité des fantasticophiles, achève de rendre ce premier long-métrage quand même bordélique, hein, il faut le dire, d'Oliver Stone, plutôt attachant, allant jusqu'à lui conférer un statut presque culte. Alors, quelques années plus tard, Oliver Stone se souviendra, transformera son auteur de SF en dessinateur de comics. Cela donnera son deuxième film, donc La Main du Cauchemar, The Hand, qui sortira en 1981. Habile variation en forme de thriller psychologique autour de l'œuvre de Maurice Renard, Les Mains d'Orlac. Ceci est une autre histoire, mais peut-être que nos amis d'Extra Lucide seront justement assez clairvoyants pour nous sortir cet autre film d'Oliver Stone qui mérite aussi d'être revu, parce qu'en fin de compte, Oliver Stone, son début de carrière, il est vachement, vachement intéressant. Donc, précipitez-vous sur ce Césure, La Reine du Mal, paru chez Extra Lucide Film. Prohibé spécial extra lucide film.
I'll get back at you. It's the last thing I do.
Because in this sorority, nothing is off limits. As long as it's fun for the girls. So when it came time to say goodbye, they decided to make real sure that no one would ever forget the girls in the house on Sorority Row.
On va rester dans le domaine horrifique, horrifique, mais là, pas fantastique, mais avec un, quand même une pointe d'onirisme, hein, une pointe d'onirisme avec effectivement ce film que j'attendais beaucoup, et j'attendais beaucoup de le voir sortir, c'est The House on Sorority Row. Le premier long métrage, et le premier film tout court d'ailleurs, de Mark Rosman, hein, qui l'écrit et réalise, un film qui sort en 1982. Et qui raconte une maison de sororité, c'est-à-dire un pavillon ou une loge que des jeunes femmes sur un campus universitaire. Ces jeunes femmes ont envie de faire une mauvaise blague à la propriétaire de la fameuse maison, une très mauvaise blague, c'est-à-dire elle va tellement être mauvaise que la vieille femme en question va y perdre la vie. Mais il y a cette femme avait un secret, et ce secret malheureusement va se retourner contre les jeunes femmes qui vont être éliminées une par une, bien sûr grâce à une arme blanche. Et oui, on est dans un slasher où d'innocentes jeunes femmes, enfin pas si innocentes que ça, vont se faire tronçonner à tour de bras pendant une heure et demie. C'est bon, moi j'aime beaucoup les slashers, hein, tu le sais, GG, toi aussi, je crois, hein, comme beaucoup de gens de notre génération d'ailleurs. Hein. Et pour moi, c'est le haut du panier du slasher quand même. C'est le haut du panier du slasher. Je trouve que c'est un film qui est quand même assez élégant dans sa mise en scène, surtout dans sa dernière demi-heure où il fait des choses assez intéressantes au niveau du découpage-montage avec des flashs qui plongent le film dans un certain onirisme. Et le film est aussi intéressant dans le sens où ces personnages, ce ne sont pas des femmes innocentes, en fait. C'est pas des femmes qui fument ou qui couchent. C'est pas le problème. C'est que elles ont commis un crime. Et ce crime, elles vont le payer. Puis elles sont quand même assez antipathiques. Même l'héroïne, elle n'est pas forcément super sympathique, même si elle a des remords et qu'elle n'était pas d'accord pour faire cette mauvaise blague. Et c'est un film qui, par là, est quand même relativement original, je trouve. C'est un film qui s'inspire plus ou moins, enfin très lointainement, des Diaboliques de Clouseau. Hein. S'inspire plus lointainement de ce film-là. Mais aussi, j'ai appris qu'il s'inspirait aussi d'un autre film, dont le réalisateur m'échappe d'ailleurs, qui est un film de 1932 qui s'appelle 13 Woman. Un film qui est réputé, selon IMDb, parce que mes sources viennent d'IMDb, qui est réputé comme étant le premier slasher. Alors, je suis curieux de voir ce film que je n'ai jamais vu, il paraît que c'est pas mal. Et donc, ça serait une des sources d'inspiration de ce fameux The House on Sorority Row.
The House on Sorority Row aussi, qui évoque les Diaboliques, il y a un petit côté giallo aussi, hein, dans son esthétique, dans sa manière d'amener les meurtres, dans son côté un peu Woodinite, il y a un petit côté enquête policière avec fausses pistes et tout ça, qui est rigolo. Et puis moi, enfin, ce que j'aime bien... dans le film, c'est qu'il y a une certaine... C'est un film qui prend son temps, en fait. Il y a une certaine ambiance. On se laisse nimber par ce film qui a une esthétique particulière, tu l'as bien dit. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que Rosman n'a pas du tout fait carrière dans le cinéma. Il a pas continué. Il a fait après des trucs vaguement commerciaux. Je crois qu'il a travaillé beaucoup à la télé. C'est très étonnant, parce qu'il fait preuve d'un certain talent, quand même.
En tout cas, il n'a pas fait d'autres films d'horreur.
Non, il n'a pas fait d'autres films d'horreur, mais même, enfin bon, voilà, il a, comment dire, un peu disparu des radars, puisque il a fait ensuite que des téléfilms ou des films familiaux. Voilà, donc, enfin, c'est pas une hérésie, hein, mais bon, le fait est qu'il ait fait un très bon film d'horreur comme ça fait que il aurait pu persévérer un petit peu, ça nous aurait fait plaisir. Et puis surtout, enfin. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est de regarder les bonus. Les bonus de House of Sorority Row, parce que le réalisateur fait une révélation qui est à mourir de rire sur le principe de la Final Girl, qui prouve qu'il voulait aller encore plus loin, en fait, dans sa manière d'aborder le slasher de façon originale, quoi. Donc, le film, aurait pu encore être meilleur, du coup, parce que la fin qu'il souhaitait faire était, on va dire, nettement plus sympathique encore, quoi.
Oui,
plus originale, plus, voilà.
Plus audacieuse.
Voilà, plus audacieuse, en tout cas, exactement, c'est le bon terme. Enfin, en tout cas, voilà, on vous conseille grandement ce film, qui est un peu méconnu en France, quand même, parce que le film n'a pas connu d'exploitation importante en France. Les fans du film s'arrachaient une copie qui circulait en bonus sur un DVD Zone 1 où il y avait une VF, je crois, dessus, hein, très étonnamment. Et c'est cette copie-là qui circulait beaucoup en France. Donc on est content qu'il y ait un éditeur, quand même, comme Extra Lucide Film, qui se soit emparé de ce film pour le sortir enfin. C'est incunable du slasher.
It started as a simple vacation. A trip to paradise that held the promise of sand and sensual pleasure. But for Michael and his friends, the fun ended early. You may have only one life to live, but there are many ways to die. And this movie shows all of them. Death warmed up. It's not for the squeamish or the faint of heart. It's for everyone with a taste for torture. Torment.
Don't feel too good.
And the torn limbs. If you like seeing people fight fire with fire, bare their brains. Ride to glory. Let it all hang out. Give themselves a jolt. Make a point. If you think that's cool, then you're hot for death warmed up. The motion picture that goes too far for your own good.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Death warmed up.
Je vais un peu m'éloigner, moi je vais aller du côté de la Nouvelle-Zélande avec de Death Warmed Up de David Bliss, un film de 1984. Alors là, comment dire, pour éditer ce film, nos amis d'Extra Lucide Film ont sorti un peu le grand jeu, quoi. C'est grosse édition. Il y a un bouquin de Julien Sébéon avec interview du réalisateur et avec, comment dire, une histoire du cinéma fantastique, horrifique néo-zélandais. Et oui, car il y a eu d'autres réalisateurs avant Peter Jackson, hein, qui ont fait de l'horreur en Nouvelle-Zélande. Et parmi ces précurseurs, il y a eu David Bliss. Alors David Bliss, qui donc est interviewé dans un livret écrit par Julien Sébéon, qu'on retrouve aussi dans un bonus qui s'appelle French Connection, parce que son grand-père fait partie des soldats qui ont délivré le village de Le Quesnoy en France lors de la Première Guerre mondiale. C'est assez étonnant comme anecdote. Le petit documentaire est assez étonnant. Et David Bliss, en 1984, bon, personne ne le connaît. Enfin, il a fait un film un peu barré, un peu quepon, juste avant que, bon, en France, personne n'a vu ou très peu de monde l'a vu. Et il fait un film un peu dingue qui s'appelle Death Warmed Up, qui est un film qui, moi, je me rappelle très bien de la VHS. Quand j'ai découvert ce film, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un film pareil. Le film est sorti en VHS chez René Château hein, à l'époque, mais pas dans la collection des films que vous ne verrez jamais à la télévision. C'était juste chez René Château, voilà. Et le film était présente une histoire assez simple en fin de compte, hein, qui est un décalque de l'île du docteur Moreau, hein, qui est un décalque punk de l'île du docteur Moreau. C'est-à-dire que vous avez un héros. Hein, qui s'appelle Michael Tucker. Et Michael Tucker, il se venge d'un savant fou, un émule du docteur Moreau, qui, sur une île, fait des expériences génétiques, crée des monstres, et tout ça, voilà. Qui est le meurtrier de ses parents, en fait. Donc, en fait, ce type, ce professeur fou, il crée des sortes de zombies tueurs. Voilà, c'est... Bon, chacun ses occupations, hein.
Hobby, hein.
Voilà, chacun son hobby, tout à fait. Je suis complètement d'accord, Thomas. Et alors, en partant de là, c'est un postulat, ma foi, bon, sympathique, mais pas très original pour les amateurs que nous sommes. Mais ce qu'il va compter, c'est le traitement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver face à nous un film. On va retrouver face à nous un film qui peut avoir par moments des allures clipesques, mais qui est surtout, il y a surtout un souffle qui traverse cette série B. Qui raconte pas énormément de choses, mais qui a un aspect visuel absolument époustouflant. Voilà, moi, ça m'avait scotché au fauteuil. Et il y a une steadicam qui est toujours en train de slalomer comme ça. C'est des moments de folie incroyable. Et puis, il y a aussi un côté très homosexuel dans le film. C'est un film punk esthétisant qui se croise avec l'horreur et puis qui est assez noir en fin de compte dans ce qu'il raconte, hein, qui est assez sombre et qui est un film où le scénario tient sur un bout de PQ et qui est quasiment indescriptible puisque c'est un maelstrom visuel ce film et il est vraiment particulièrement marquant et très typique aussi d'une époque. Hein, ça peut rappeler aussi le Russell Mulcahy des débuts, tout ça, très typique d'une certaine esthétique, d'une certaine époque. Voilà. Moi, franchement, Death Warmed Up, si vous l'avez jamais vu, précipitez-vous sur ce film quand même venu d'une autre galaxie. Hein. La Nouvelle-Zélande est sur Terre, hein, mais en tout cas, le film, lui, vient d'une autre galaxie. Il est ce qu'on appelle un OVNI, un objet filmique non identifié. Alors, avec le film, en bonus, il y a un autre film qui s'appelle Wound, qui est un peu le retour de David Bliss aux affaires. C'est un film de 2010. Il faut savoir que David Bliss, après, il a plus fait que de l'alimentaire, des choses pas très intéressantes, en fin de compte. Bon, lui, dans l'interview qu'il donne dans le petit livret de Julien Cévéon, bon, il a l'air de dire qu'il s'est éclaté, mais enfin, moi, à un moment, il cite les Power Rangers. Je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup éclaté sur les Power Rangers, mais bon, en tout cas... Lui, c'est une expérience. Je pense que surtout, il a gagné beaucoup d'argent, voilà, et que ça lui a suffi. Et en 2010, il fait un petit film qu'on a regardé avec Thomas d'ailleurs. Hein. On a regardé ça, ce matin. On vous dit tout, hein, des secrets de préparation de l'émission, parce que le Blu-ray nous est arrivé un peu tard. En fait, il nous est arrivé hier. Donc, on a regardé le. On voulait tout voir, on voulait voir les bonus aussi, donc on a regardé le film ce matin au réveil. Voilà, au réveil, c'est un film particulier quand même. Il faut reconnaître que bon, c'est un film un peu spécial. Alors c'est fauché parce que Wound, Beware the Beast, donc on voit le grain HDV, tout ça. Enfin, on voit que c'est pas fait avec beaucoup de moyens. Mais bon, ça raconte l'histoire est assez simple. Hein. C'est une femme. Un peu dingue, au début, il y a son père qui arrive, elle ne l'a pas vu depuis des années, parce qu'il lui dit qu'il était artiste, donc on devine qu'il était artiste, qu'il a dû faire des tournées, tout ça. Bon, du coup, elle le tue, elle l'émascule. C'est aussi une femme qui récupère ses déjections et qui les met dans son congélo. Elle les met dans de l'alu, elle les met dans son congélo. Alors, elle en balance quelques-unes quand elle enterre son père avec lui. Voilà. Au même moment, on suit le parcours d'une lycéenne qui a été abandonnée, qui a une enfant abandonnée, et qui découvre que sa mère, en fait, c'est cette femme-là. Cette femme-là qui fait en fait qui travaille de chez elle et qui fait du phoning, vous savez ce qu'on appelle du phoning, c'est-à-dire du harcèlement téléphonique en fait. Elle vous appelle pour vous dire bonjour, je suis Juliette de Royal Cuisine, je vous appelle car vous avez été sélectionnée, patati patata. Voilà, elle fait ça comme boulot, elle le vit pas très bien, elle est un peu dépressive et puis elle a une relation très équilibrée avec un homme qui est son maître et elle est son esclave. Et régulièrement, il passe chez elle, comment dire, lui fait boire du laxatif et l'empêche d'aller aux toilettes, ou bien la fait mettre toute nue et lui pince les seins avec des épingles à linge. Voilà. Donc, un rôle physique hein, pour l'actrice, voilà, qui donne de sa personne. Et donc, bah, tout ça au petit-déj, c'est assez sympa, en fait. Donc, et du coup, le film dégénère un peu parce qu'il est aussi question d'une boîte un peu sadomaso où il se passe des choses étranges. Et bah, tout ce petit monde va finir par se rencontrer dans un délire onirique. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas dévoiler. C'est un film aussi qui traite de l'obsession du monde dans lequel on vit, où on est sans cesse filmé. Filmé par sa webcam, filmé par des caméras de surveillance. Voilà, enfin, y a tout cet aspect-là, toute une réflexion là-dessus. Alors, c'est un petit film, ce n'est pas un grand film. C'est du film qui est un tout petit budget et tout ça. Mais c'est un film qui, par moments, offre quand même, on voit que David Bliss reste quand même un vrai metteur en scène. Il y a quelques plans, je pense à un plan, Thomas, qui t'a beaucoup plu... où à un moment on voit la jeune fille avec son amoureux qui se couche sur les rails comme ça dans la nuit sur une image bleutée très belle. Voilà. C'est je sais que quand Thomas a vu ce plan, il a dit mais ça c'est du cinéma. Ben oui Thomas, il y a un réalisateur derrière la caméra, mais là il a pas beaucoup de moyens et il a peut-être pas un scénario à la hauteur de ses ambitions, mais on sent que il se lâche, qu'il revient à ses premières amours. Écoutez Culture Prohibée spécial Extra Lucide Film.
Une galaxie mystérieuse et fantastique. Au-delà des confins de l'espace et du temps.
Dans le plus grand secret, je vous demande de voler vers la galaxie des étoiles hostiles.
Aux limites vertigineuses de l'univers, règne la trahison.
Mais qu'est-ce que c'est? Entrons dans l'hyperespace!
On y va!
Star Crash de Luigi Cozzi, qui est un film que j'aime bien, qui est un film de SF un peu fauché, hein, fait avec des moyens du bord, mais je pense que c'est aussi volontaire de vouloir rendre hommage à une certaine SF, notamment les Sérioles ou même à Georges Méliès. Star Crash, c'est quoi ? Star Crash met en scène Caroline Munro, David Hasselhoff avec sa permanente, Christopher Plummer.
Et Marjo Gortner. C'est un type incroyable. C'était un enfant star qui était un enfant prédicateur. Il a une destinée incroyable. Je t'invite à un documentaire sur sa vie. Je t'invite à voir ça parce que c'est dément. C'est dément. Ah ouais, il n'est pas dans les bonus du DVD. Il est passé sur Arte. C'est dément.
Et donc, il y a aussi Joe Spinell, hein, le fameux maniaque qui reste dans ses rôles de méchant. Et là, il y a une cape noire. Hein, genre. C'est un ersatz de Darth Vader, mais sans le casque. Donc, Star Crash, ça raconte... Donc, c'est ce méchant, Joe Spinell, qui veut prendre possession de la galaxie, qui veut être l'empereur à la place de l'empereur, hein, qui est joué par Christopher Plummer. Et l'idée, c'est de pouvoir retrouver notamment le fils de l'empereur qui a disparu quelque part. Il faut retrouver les navettes qui se sont égarées quelque part sur différentes planètes de la galaxie pour pouvoir sauver et enfin trouver la base secrète aussi de Joe Spinell afin de contrecarrer ses plans de très méchants de films de SF. Alors, c'est un film fait avec 2-3 bouts de ficelle, hein. c'est pas Star Wars, même si ça rend hommage à Star Wars, c'est une ode à Star Wars entre autres. C'est fait avec des effets spéciaux un peu bricolés, on peut retrouver des choses qui rappellent Ray Harryhausen, hein, du image par image, mais c'est un film très sympathique qu'on a un petit peu tendance à mettre dans la case nanar. Et là, je me fâche parce que ce n'est pas un nanar. Moi, je trouve que le film est quand même assez soigné, même si on voit que c'est fait avec pas grand-chose. Je trouve que le film est assez soigné. On voit que parfois... Je crois reconnaître une guitare dans un vaisseau spatial à un moment. Hein, j'ai l'impression que c'est fait avec une guitare. Enfin, on voit vraiment le truc vraiment bricolé avec les moyens du bord. Mais je pense que c'est aussi fait exprès, ce petit côté un peu regardez, j'ai fait ça avec 2-3 bouts de ficelle. Et moi, je trouve que le film, il est sympa. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Esthétiquement, je trouve que c'est même plutôt soigné.
Mais Koji, c'est un bon réalisateur. Hein. Oui. Il Ragno, c'est vachement bien. Contamination, c'est vachement bien. C'est un réalisateur populaire qui fait de la série B et qui s'en acquitte fort bien, ma foi.
Oui, c'est un film que le résultat ne prête pas à rire. Même si le jeu des acteurs, les acteurs ne sont pas très bien dirigés, on le voit. Hein, les maquillages ne sont pas toujours bien réussis. Il y a un mec, il a une tête verte et puis. C'est pas toujours uniforme son maquillage vert sur le visage. Je me demande si c'est pas fait exprès tellement c'est gros. Mais...
Caroline Munro, après moi, dont je suis secrètement amoureux depuis toujours. Hein. Caroline Munro, c'est vrai que, bon, on l'a vu dans Maniac, on l'a vu dans d'autres films. Bon, elle a aussi été James Bond Girl. Elle a une plastique irréprochable. Mais sa plastique est autant irréprochable que son jeu d'actrice est approximatif. Quand même, il faut bien le dire. David Hasselhoff fait du David Hasselhoff. On le connaît. Joe Spinell se marre comme une baleine parce que lui, c'est un super acteur. Mais bon, là, on sent qu'il se fend la gueule, quoi. Voilà. Et c'est un film, quand même, qui a été tourné. Alors, je crois qu'il est tourné au Maroc. Je ne veux pas dire de bêtises. En Tunisie aussi, à Hollywood en partie et à Cinecittà. Voilà. Et c'est un film qui a été tourné sur 6 mois quand même. Ça n'a pas dû être qu'une partie de plaisir. Je pense que ça n'a pas été simple. Voilà. Et que, comme tu dis, par moments, c'est bricolé, tout ça. Je pense qu'il nourrissait une certaine ambition vis-à-vis de ce film. Mais dans le documentaire qui est en bonus, qui est passionnant sur Koji, on voit aussi qu'il a placé des scènes, en particulier des dialogues entre Mara Jo Gortner et Caroline Munro, qui sont des dialogues assez comiques, assez drôles. Un peu ridicule en fait, mais c'est volontaire. C'est volontaire, ça le fait marrer, Koji, quand il en parle, ça le fait marrer.
Oui, parce que en plus, ces deux personnages-là font ouvertement référence à Han Solo et à Chewbacca, hein, même si je sais pas qui est le singe entre les deux, entre Caroline Munro et l'autre acteur, mais bon, c'est ouvertement ça, des contrebandiers de l'espace. À un moment, ils rentrent en hyperespace. Comme Han Solo et Chewbacca dans l'Empire contre-attaque pour fuir leurs poursuivants. Non, moi je trouve que c'est un film qui est très sympathique. Et moi quand je le vois, j'ai pas envie de me marrer, j'ai pas envie de me moquer du film. Quoi. C'est un très bon divertissement qui rend hommage à ces sérioles, qui pourrait rendre hommage aux sérioles de Flash Gordon par exemple, etc. Non, moi je trouve que c'est vraiment sympathique. Et comme je dis, c'est soigné. Puis il y a une très belle musique de John Barry.
Oui, oui, très belle musique de John Barry, comme tu le dis, Thomas. Et puis, c'est quand même un film qui a marqué son époque. Je veux dire, voilà. Et effectivement, le film peut prêter à rire, voilà. Mais on ne se moque pas du film. Voilà, c'est toute la différence. Et oui, les amis, Culture Prohibée, ce n'est pas Nanarland. Nous sommes désolés. Voilà, alors... On va tout de suite écouter, on va les joindre par la magie du téléphone, cet outil moderne de communication que nous enviaient nos amis de Star Crash. Voilà, on va joindre nos amis Karine Bach et Patrice Véry, qui sont donc les patrons d'Extra Lucide Film, cette jeune maison d'édition. Et donc, on va échanger avec eux dans Culture Prohibée, dans les minutes qui viennent, et ben autour de cette maison d'édition, de leur catalogue, de leur projet. Voilà, donc tout de suite, Karine Bach et Patrice Véry, au micro de Culture Prohibée. Bonjour Karine et Patrice.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, pourquoi avoir créé Extra Lucide Film et vous êtes lancé dans cette aventure alors qu'aujourd'hui, bah, tout le monde annonce la fin du support physique?
Parce qu'on a toujours envie de défendre un certain cinéma. On croit encore au support physique. Et au-delà du physique, après, on imagine pouvoir faire aussi un peu de salle, enfin voilà, travailler sur toutes les possibilités de support pour ces films.
Donc vous envisagez de varier les supports, quoi. Peut-être faire un peu de livres, un peu de bande originale de films, des choses comme ça.
Oui, voilà, on étudie tous les canaux de diffusion possibles pour des œuvres. Et donc là, pour l'instant, on est en DVD Blu-ray. On a sorti un livre sur Star Crash avec des photos inédites fournies par notre ami Lucas Balbo et Jérôme Vivou. Voilà, avec préface d'Alain Chlokoff. Donc ça, c'est notre tout premier livre. Au mois de novembre, on sort le film Slacker de Richard Linklater et il y aura un collector avec le Slacker Book, donc, qui a été écrit par Richard Linklater à l'époque. Donc on a tout traduit le livre en français intégralement. Donc ça sera le deuxième livre. Et puis avec le coffret collector, enfin la pizza box collector de Zone Humide, il y aura le roman de Charlotte Rush dont est adapté le film. Dans la boîte à pizza.
Qu'est-ce qui motive les choix de votre catalogue? Alors, vous avez débuté par Tous les dieux du ciel de Quarks, hein, qui est un choix gonflé quand même, mine de rien, même si le film avait bien cartonné en festival et que les fans l'aimaient bien, les fans d'horreur et de fantastique. Et puis, le reste de vos choix de films, alors, on sent qu'on fait partie tous d'une certaine génération, hein, mais c'est un peu des choix de films qui étaient un peu cultes, nous, lorsque on était, on était ados, quoi. Je veux dire, Star Crash, Césure, La Reine du Mal, tout ça, c'est des films de vidéoclub qui nous ont bien éclatés, quoi, quand on était plus jeunes.
Oui, Tous les dieux du ciel, effectivement, c'était un choix assez gonflé, mais on marche beaucoup au coup de cœur, en fait. Et donc, quand notre ami François Cognard nous a proposé de sortir son film en Blu-ray, on l'a vu, on l'a adoré, donc bah oui, allons-y. Et puis on est assez fiers en fait que ce soit notre première sortie et on choisit pas la facilité.
Voilà, et puis c'est important aussi de défendre un peu le cinéma de genre français qui est souvent conspué dans l'Hexagone, alors qu'il est souvent souvent adoré à l'étranger. Donc voilà, c'est une raison de plus de défendre ce cinéma qui nous tient beaucoup à cœur. C'est aussi des relations humaines, voilà, c'est aussi un échange, c'est plein de choses importantes à nos yeux.
Et justement, comment t'expliques, toi, ce hiatus, quoi, en gros, que le cinéma français de genre est tant apprécié à l'étranger et pas trop en France, en fait?
Oh, je pense que c'est un problème franco-français, on va dire. On se prend trop la tête, voilà. Il y a les jalousies. Enfin, je pense qu'il y a plein de petites querelles de chapelle qui rentrent en jeu. On aime bien se châtier. On trouve ça un peu ridicule à force. Je pense qu'il faut un peu s'élever et prendre conscience aussi qu'on fait des choses très bien dans le cinéma de genre, ou en tout cas intéressantes.
Après, moi, je me posais la question aussi, c'est que vous avez débuté cette première année d'Extra Lucide Film hein, par un... Quand même, vous avez tout de suite un catalogue assez. Vous êtes vite sorti 5 films. C'est quand même un travail, quand on connaît un peu l'envers du décor, c'est quand même un travail très, très costaud, très lourd, très chronophage, d'aller chercher les bonus, tout ça. Parce que, bon, quand même, vos bonus sont soignés, tout ça. Enfin, il y a du taf, quoi. Et je trouve que c'est peut-être gonflé, non? Vous y êtes allé fort. Vous dormez un peu la nuit, des fois, non? Ça va, vous y arrivez?
Oui, on a sorti beaucoup de films d'un coup en peu de temps parce que c'était important pour nous. À la base, avant le confinement, ça devait être au rythme d'une sortie par mois. C'était important d'avoir beaucoup de volume, du volume assez rapidement parce que bah, c'est pas une économie très c'est compliqué, donc il faut assez vite instaurer un certain roulement de commandes et tout ça, et puis surtout de s'installer assez rapidement aussi et pas être un éditeur anecdotique entre guillemets qui sort un ou deux titres par an, c'était pas, et puis bon, on fait que ça, enfin on est dédié à ça 22 ans. On a du temps de soigner nos bonus. Merci d'ailleurs pour de faire ça. Voilà.
Et puis vous avez sorti aussi un film qui était attendu par beaucoup de fans, c'est The House on Sorority Row, qui est un film assez rare en fin de compte sur support vidéo dans l'Hexagone.
House on Sorority Row, oui, on est plutôt fiers en tout cas d'avoir pu l'éditer. On a travaillé avec Mélanie Mombosno pour le bonus. C'était bien aussi d'avoir une touche féminine pour ce film, surtout pour un slasher. Et on espère pouvoir continuer peut-être avec d'autres slashers à venir. Là, on est en plein travail d'ailleurs pour la suite du line-up. Et on espère avoir des surprises très vite.
Extra lucide, extra lucide, extra lucide, extra lucide, forever and ever, ever and ever.
J'écris l'amour dans les ténèbres comme de la tour par la lumière.
Extra lucide, extra lucide, extra lucide, extra lucide, extra lucide, extra lucide.
Pour les rêveurs, forever, ever.
Extra lucide, this is motherfucker. J'vais marcher dans le désert, y'a pas de sandales à footlocker. Pèlerin du cœur, la mec Albuquerque. Frérot, si j'vis la nuit, c'est pas pour danser le jerk. Hybride boule terrier, orient guerrier. En Occident, c'est pas pour rien qu'on dit désorienté. Ça veut dire détourner de l'Orient. On vit en riant, les têtes tournées vers l'or. Pour ça, on est fort, on fait que l'amour, on fuck la mort. Vendez sensations fortes de ville en ville comme des forains. Et ce plan est foireux, ça pue, pétard mouillé. Leur vision du bonheur indéfiné le 14 juillet. Génération désenchantée, Mylène Farmer. Mes consoeurs et confrères n'ont que faire de ce confort. Faut pas que mon pays devienne une ville infâme. Pas chacun dans son coin, et c'est pour ça qu'on sort. Derrière une caravane, les frères et sœurs en guise de moteur. Loin du fake bonheur, on fuit les Blade Runner. Dieu comme bodyguard, mais qui est Kevin Costner?
Tu veux du love?
Autant chercher un angle dans un cercle. Pourquoi chercher un ange dans ce siècle? Ne viens pas me gratter, je fais pas d'urticaire. On devrait couler les haineux comme le secteur bancaire. God damn, je suis toujours en vie comme Highlander. Et je viens tout donner à la Noah, Max Villander. Moins clair que Julien, this is rappeur au broker. Ma jeunesse est cardiaque, je suis un pacemaker. Je viens défoncer les trains avec un gros marqueur. Écrire des passages de la rage et de l'attrape-cœur. Ultra sensible, extra lucide. C'est comme sur Twitter, l'amour qu'il aime le suit.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud, Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admirali. Une émission animée avec Thomas Rolandi, le loup-garou Picard. Un petit coup de main à la technique de Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine.
Cherche et signale les cœurs en parabole. Sont parasités car à hauteur d'homme grandit
en cité, banlieues argentines m'avaient tracé mon destin. J'ai trouvé la gomme, mon âme a des pare-feux, car y'a trop de virus. Mon corps c'est 7 et mon cœur c'est Horus. Un amour de géant dans des villes de minus. La vie me va comme un gant de boxe et je refuse de rester au sol en attendant le décompte. L'amour me sauvera, je serai jamais sauvé par le gong. Je rentre dans l'arène, dans la ronde. La mort me donnera raison de ce monde. Si tu te bats pas, tu subis. Tu t'ennuies, tu penses à tant d'ennuis pendant tant de nuits. Et y'a tant d'envie, c'est tant, tant oui. Mais tu te dessèches, tu cèdes à tout. Garde-en un peu pour la fin de la course. Si bas c'est le désert, laisse-en dans ta gourde. Si vient l'orage, le tonnerre et la foudre. Le cœur solide, reste en vie, mon amour.